Voilà, c'est un plaisir d'être là et encore une fois d'ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans cette série d'études de qui est Dieu selon lui-même. C'est très important, je veux souligner, j'ai apprécié la présidence ce matin et souligner l'importance de connaître Dieu, qui il est. Et c'est pas à chacun de décider, c'est que dit-il de lui-même. C'est la même manière quand les gens croient me connaître, je veux qu'ils se fassent l'idée de qui je suis vraiment et pas qu'ils se fassent une autre idée, qu'ils m'imaginent meilleur, je pardonnerai plus facilement que s'ils m'imaginent pire que ce que je suis. Voilà, je suis encore humain. Mais Dieu, on veut le connaître tel qu'il est. Je vous propose une lecture dans Actes chapitre 14, jeudi soir nous sommes en train d'étudier le livre des Actes, et justement nous arrivons à ce chapitre 14 où Paul est dans une ville païenne et qui prêche la parole à des gens qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Et donc ce matin je vais m'inspirer de cette prédication de Paul et aussi de celle qu'il donnera à Athènes dans le chapitre 17. Donc d'abord je vais lire justement ce résumé de sa prédication là dans Actes 14, et donc je lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Il dit en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ?» Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de lui offrir un sacrifice. Et le second passage se trouve dans le chapitre 17, et à partir du verset 22, là, Paul se trouve à Athènes sur l'aéropage, donc l'esplanade où on pouvait s'adresser au public. Il avait été invité d'apporter une parole puisqu'il avait vu qu'il avait quelque chose de nouveau. Et donc au verset 22, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait de tous les hommes, sortis d'un seul sang, habite sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme, c'est Jésus. Donc vous remarquez, première remarque en passant, c'est qu'il ne cite nulle part l'Ancien Testament. C'est des gens qui n'ont pas l'Ancien Testament, qui ne connaissent pas, et pour qui l'Ancien Testament n'est qu'un autre livre. Et l'apôtre Paul s'adresse à ces personnes qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Oh, ils ont des dieux, ils ont des divinités, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Et aujourd'hui, même la majorité des personnes sont croyantes d'une manière ou d'une autre. Mais ils souffrent d'une grande ignorance de qui Dieu est réellement. Au point que, si on interrogeait les gens, chacun décrirait Dieu autrement. Que l'on soit polythéiste, comme la majorité de l'auditoire de Paul, ou que l'on se considère monothéiste, ou que l'on vive dans la crainte des esprits, les esprits sont maléfiques, mais même si dans un premier temps, ils semblent nous apporter un service, ou que l'on ait dans son fort intérieur une vague notion d'un être suprême, peut-être qu'il est distant, peut-être qu'il est absent, mais il existe quelque part, ou vous avez juste une conscience qu'il y a un être invisible qui est là. Je ne sais pas comment m'adresser à lui, je ne sais pas comment le trouver, mais j'ai quand même ce sentiment qu'il y a, quand même un être invisible quelque part. Eh bien, c'est justement cette conscience-là que je veux faire appel ce matin. C'est quelque chose qui est là, la conscience de l'éternité. Il y a quelque chose au fond de la personne. Et en fait, pour être contre, pour nier son existence, il faut faire un effort. Et en général, ça vient plus tard dans la vie. Mais un enfant, par exemple, il est disposé à croire en Dieu. Et donc, l'apôtre Paul, ici, dans Antioche de Pisidie, ou bien à Athènes, eh bien, il parle à ces personnes et il veut faire appel justement à cette conscience qu'il y aurait, ce sentiment qu'il y a quelque chose et qui peut-être dans leur esprit l'ont exprimé d'une manière ou d'une autre. Mais si normalement c'est cette conscience d'un être puissant quelque part qui pourrait intervenir. Et peut-être qu'avons-nous été déçus en faisant appel à lui et qu'il n'est pas intervenu, mais il y a quelque part, on a cette idée. Et vraiment, pour être contre, c'est soit par l'éducation qu'on peut arriver à ne plus croire, ou bien c'est un acte de la volonté, on refoule la pensée, parce qu'on ne veut pas se tracasser avec la question, puisqu'il y a tellement de confusion, ou bien on veut, on préfère l'ignorer, et comme ça on n'est pas responsable. Mais c'est difficile de vraiment nier ce qu'on sait au fond de nous existe. Ça revient régulièrement et il faut refouler constamment pour vraiment ne pas penser à Dieu, pour la plupart des gens. Les scientifiques sincères ne peuvent se prononcer que sur ce qui existe et ce qu'ils peuvent observer. C'est pour ça qu'ils ont du mal à dire quoi que ce soit sur ce qui était avant le commencement. Que la Bible parle, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la matière a eu un commencement. Et les scientifiques ont du mal, et là après c'est de la théorie, c'est des idées et tout ça, mais ils ne peuvent pas vraiment se prononcer franchement sur ce qui existait avant la matière, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent observer, c'est tout ce qu'ils peuvent voir. Mais la Bible commence en disant Dieu a créé le monde, Dieu a créé cet univers. et ce moment où il a créé, il l'a appelé commencement. Et donc, nous voyons que vous avez remarqué dans Actes 17, Paul qui s'adresse à ces Athéniens et qui veut justement leur parler du Dieu créateur. Eh bien, vous avez remarqué ce qu'il dit. Il dit, il a fait de tous les hommes sortis d'un même sang, d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Il soulève la question et dit, mais nous sommes tous d'un même sang. Maintenant, cette déclaration, on peut, si je suis croyant dans la Bible, je vais dire, Dieu a créé Adam et Ève, et tous nous sommes descendants d'Adam et Ève. Pour celui qui ne veut pas croire cette histoire-là, mais qui, il est obligé de nos jours, sinon c'est très mal vu, de ne pas croire que nous sommes tous issus d'un même sang. Et tout le confirme, hein, le médecin le sait, nous sommes, c'est un même sang, et si nous sommes tous un même sang, eh bien forcément, on vient d'une même origine. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas contourner la chose. Hein, on peut ne pas parler de Dieu, mais on est obligé de revenir qu'il y a une seule origine. Et vous pouvez essayer de vous l'expliquer comme vous voulez, mais la Bible nous dit que nous avons une origine et nous sommes tous issus d'un même être créé par Dieu, qu'on appellerait Adam, qui veut dire le mâle, et Ève, c'est son nom, mais c'était Adam et homme et Ish et Isha, hein, c'est homme et femme, c'est comme ça que ça a commencé, et comprenez qu'il fallait qu'ils existent tous les deux en même temps, hein, sinon nous ne serions pas là. Paul s'adresse et dit la première chose, et c'est ce que nous avons dit dimanche dernier aussi, c'est que la première chose que Dieu révèle, c'est qu'il y a un Dieu créateur. Et c'est difficile de contourner ce fait. Et si c'est vrai, alors il y a beaucoup de choses qui découlent de là. Ce qui nous propose la théorie de l'évolution, hein, de que les choses ont évolué, eh bien, la propose sur la base que c'est au fur et à mesure qu'un être ressent le besoin d'évoluer afin de pouvoir survivre, qu'il aurait évolué. Mais vous savez, la constatation de nos jours, c'est que peut-être si en théorie c'était possible, dans la pratique c'est pas possible. En général, l'extinction arrive avant l'évolution. Hein, et c'est pour ça que de nos jours, eh bien, nous faisons de gros efforts pour essayer de protéger certains animaux, parce que justement on ne compte pas sur une évolution. On n'y croit pas vraiment. Hein, et donc, on suggère de la protection et on protège. Mais si vraiment ces animaux sont menacés, ben c'est à eux d'évoluer et de s'adapter. Mais ça ne se passe pas. Et l'extinction, elle vient avant l'évolution. Et donc, ne comptons pas sur cette idée-là. C'est bien pour le lointain dans le passé, mais aujourd'hui ça ne se vérifie pas, ça ne se montre pas, et si nous voulons être raisonnables et scientifiques, eh bien nous sommes obligés de constater ce qui est et pas ce que nous imaginons. Nous avons une même origine et dans le Dieu créateur, Maintenant, il y a un Dieu créateur, maintenant qui est-il et comment est-il et qu'a-t-il à dire? Paul, en s'adressant à ces personnes qui n'ont aucune connaissance du Dieu de l'Ancien Testament, eh bien, il souligne une deuxième réalité, hein, que dans le chapitre 17, donc aux Athéniens, il dit que non seulement est-ce qu'il y a un Dieu créateur, mais il est là. Il n'est pas loin et il veut se laisser trouver. Ça, c'est extraordinaire, c'est très important qu'il y en ait un quelque part, au loin. Et puis s'il est au-delà de la dernière étoile, ça fait très loin. Hein. Mais Paul dit non, il y a un Dieu créateur et il n'est pas loin. Il est là et tu peux le trouver. Alors, je relis ces versets, ces versets 26 à 28, donc de Acte 17. Il dit, il a fait de tous les hommes, sortis d'un seul sang, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sein, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'eux. Il dit « cherche », même si tu dois le faire en tâtonnant, mais cherche, il n'est pas loin, tu vas le trouver. Et c'est un peu, vous connaissez ce jeu que les enfants jouent, hein, avec les yeux bandés, puis on doit essayer de repérer, et pour le guider, on lui dit « t'es chaud ». Et bien, en fait, c'est ce que Paul est en train de leur dire. Il dit « il est là, vous avez peut-être les yeux bandés, mais vous êtes chaud, il est là ». Même celui qui est dans une église et qui possède une Bible doit chercher Dieu. Hein ? On l'est pas, c'est pas parce que j'ai été éduqué par ma grand-mère que je connais Dieu. Je dois le chercher de manière personnelle. C'est le connaître personnellement. Il ne suffit pas de reconnaître son existence. Parce que la preuve que une bonne partie du monde reconnaît l'existence de Dieu, mais on n'est pas plus en sécurité chez eux que chez les autres. Si Dieu veut que nous le cherchions, et Paul est en train de s'adresser à des païens, hein, il n'est pas en train de s'adresser à des gens d'église, ni à des gens de la synagogue, il est en train de s'adresser à la foule, en majorité païenne, et il leur dit « Dieu veut que vous le cherchiez ». Et s'il le dit, c'est que Dieu, l'homme peut initier cette recherche et même trouver, comme dans le cas de l'Éthiopien par exemple, dans Actes chapitre 8, hein, l'Éthiopien a cherché. Il a été même jusqu'à Jérusalem, il s'est acheté une copie de la Bible, Dieu a vu qu'il cherchait et Dieu lui a envoyé, il lui a fait croiser le chemin avec Philippe qui l'a aidé. Vous avez aussi, dans Acte 10, vous avez l'exemple de Corneille, cet centurion romain qui cherchait, qui faisait de son mieux, qui un peu imitait les Juifs autour de lui, parce qu'il avait le sentiment que c'était leur Dieu qui était peut-être le meilleur, et il essayait de faire ce qu'eux faisaient. Mais Dieu a envoyé, a déplacé Pierre pour venir lui parler, lui faire connaître Jésus-Christ. Donc, mais surtout, n'imaginez pas que vous soyez prédestiné à la perdition. Dites-moi, c'est pas pour moi, moi c'est... Non, ça n'existe pas. Hein, c'est un mensonge de l'ennemi pour nous dire que certains sont prédestinés à la perdition. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Le salut, bien sûr, n'est pas dans le pouvoir de l'homme, c'est pas « je ne peux pas me sauver hein. ». J'ai besoin d'être sauvé, et ce n'est pas un homme qui peut me sauver, hein, il n'y a pas à aller faire appel à monsieur un tel, ou père un tel, ou imam un tel, ou... Non. Et c'est pas dans une confession, c'est pas dans une religion qu'on trouve le salut, mais c'est en s'adressant directement à Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Hein, et on va développer cela. Mais il nous dit, et on l'a lu, l'apôtre Paul le dit à ses Athéniens, hein, il leur dit, vous avez en lui la vie, le mouvement et l'être. Vous l'avez déjà. Vous avez en vous la vie, le mouvement et l'être. Et avec ça, vous pouvez le trouver. Vous pouvez le chercher. Vous pouvez le découvrir. Et donc, le rechercher, c'est comme un enfant qui a été adopté. Dans sa jeunesse, d'accord, il est adopté. Mais il arrive un moment dans sa vie où il commence à se demander, mais qui, mes vrais parents, hein, qui sont-ils?
Où sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Et il fait des recherches. Parfois, ça prend un certain temps, mais il veut savoir quelle est son origine. Eh bien, c'est à nous aussi, en tant que créatures, de nous poser cette question, de dire, mais j'aimerais savoir d'où je suis issu. Hein, je ne suis pas juste, bon, je suis là, c'est vrai, on s'est donné des gouvernements qui ingèrent beaucoup de choses pour nous rendre un peu plus confortables, nous avons inventé toutes sortes de choses, mais j'aimerais savoir d'où je viens. Et qui m'a créé, et d'où je suis issu. Je veux savoir comment il est, à quoi il ressemble. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous devons rechercher ça. Nous devons dire, mais je veux connaître Dieu. Si c'est lui qui m'a créé, eh bien, je veux le rencontrer. Il est vrai que j'ai déjà eu affaire avec des personnes qui ont pu enfin rencontrer les parents. Ils étaient un peu déçus. Et d'autres étaient très contents, et ça fait de très belles histoires, de très belles retrouvailles. Et récemment, ça me vient à l'esprit, là, ces deux sœurs qui avaient été adoptées par différents parents, et ni l'une ni l'autre ne savaient que l'autre existait, et qui se sont retrouvées. Alors là, c'était vraiment la grande retrouvaille. Hein, mais c'est, je cherche, ça a pris des années, ça prend des années, et pour trouver Dieu, ils disent, oui, peut-être ça peut être, vous avez l'impression que c'est en tâtonnant, hein, mais cherchez, il est là. Il est là. Vous cherchez quelque chose qui existe. Donc, oui, il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu créateur qui est là et qui peut être trouvé. Et puis, troisièmement, eh bien, Paul souligne le fait que ce Dieu est un Dieu vivant. Hein, acte 14, verset 15, il parle du Dieu vivant. Et qu'il intervient dans la vie des hommes, dans la vie des uns et des autres. Il dit, il dit, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et remplissant vos cœurs de joie. En théologie, on appelle ça les grâces générales, pour dire que c'est quelque chose que Dieu donne à tous. Hein, Jésus l'a exprimé autrement, et il a dit, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On appelle ça la grâce générale, c'est quelque chose que Dieu accorde à tous. C'est vrai que c'est une grâce qu'il ne peut pas sauver. Hein, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'il il donne la santé et personne n'est favorisé. Certains ne sont pas favorisés, mais il n'y a personne. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on se porte mieux. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on réussit dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on est plus intelligent que les autres. Non, non, on est tous au même rang. Il dit, mais cette grâce est là, et on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est généreux comme ça? Et pourquoi est-ce qu'il accorde? Et bien sûr, je sais qu'autour de nous, nous disent, mais c'est la nature, la nature, la nature. Et la nature, j'aimerais bien la rencontrer un jour. Elle s'appelle comment? Quelle est sa personnalité? On essaye, mais la nature, oui, c'est facile à dire. Hein, mère nature. Hein? Bon, mais j'aimerais bien la rencontrer. Dieu est moins abstrait que le mot nature. Hein? C'est plus personnel. Et la nature, si elle fait de belles choses, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a programmé des lois. Hein? C'est pas elle. Hein? La nature n'a pas d'intelligence. Quelque part, elle a été programmée. Hein, c'est comme un robot. Ça fait des choses intelligentes, mais ça ne décide de rien. Et pour la nature, c'est pareil. Hein, c'est un logiciel extraordinaire qui gère plus que ce qu'on croit. Oui, mais qui a fait le logiciel? Hein? Et là, il dit, justement, il dit, si Dieu... Et généreux, et si ces grâces sont là, c'est parce que, dans un sens, il nous dit, je suis là.
j'existe. Et le but et toute cette générosité et ces saisons régulières et tout ça, c'est pour nous dire qui il est. Il dit, écoute, c'est que tu saches que j'existe et que tu te demandes d'où ça vient et qui est derrière et que tu cherches à le connaître. Qui il est, c'est important à savoir. C'est par là que ça commence. Et il nous dit que ceci a été dit dans le but de nous apporter la bonne nouvelle. Et qu'il renonce aux choses vaines pour se tourner vers le Dieu vivant. Hein, se détourne de choses qui n'ont pas de sens. Il y a une dimension animale chez l'être humain. Il y a quelque chose qu'on manger, boire, dormir, c'est ça, c'est le côté animal. Mais il y a une autre dimension, et celle-là, il ne faut pas l'oublier. Et finalement, c'est ça la beauté de l'être humain, c'est la partie qui n'est pas comme les animaux. Hein, cette pouvoir de capacité de réfléchir, d'être conscient, de se projeter dans le temps, d'avoir être conscient du temps, de même penser à un créateur. Et il nous dit, il a dit aux Athéniens, il leur a dit, écoutez, Dieu, ce n'est pas de l'or, de l'argent que vous avez modelé et pour ressembler à des choses, parce que finalement, ça ne fait, c'est de l'art, oui, et c'est ça peut être vraiment bien fait. Mais il a dit, mais c'est une expression de votre imagination. C'est pas comme ça que Dieu s'est révélé. Hein, il s'est ni révélé comme un oiseau, ni comme un animal, ni comme autre chose. Il dit, ça c'est joli, mais c'est pas comme ça. Hein. Et Dieu, il nous dit, mais Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Il y a une chose extraordinaire. C'est que Dieu a créé l'homme et le laisse libre. Il est libre de faire ce qu'il veut, parce qu'il lui a donné une capacité de chercher et d'imaginer, de faire. Et c'est extraordinaire. Et notre monde, dans un sens, est le produit de cela. Hein, il nous a laissé faire. Bon, c'est un produit, le côté négatif comme le côté positif. Hein. Il nous a laissé faire. Il nous laisse faire. Et nous avons la capacité d'initier des recherches et de vouloir. Et il nous demande, et justement, il nous a dit, ben il nous laisse là, il n'a pas oublié ces gens dans les temps passés, et il a entretenu cette conscience de lui, cette conscience de sa présence par le monde qui nous entoure. Hein, le monde qui est là et qu'on admire, et qu'on peut admirer dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand et même dans la vue panoramique, c'est toujours beau dans tous les sens. Il nous dit, Dieu, il est prêt à tout ce qui est passé, tout le cheminement que nous avons pu avoir, toutes les expériences, les mauvaises expériences, et ce qu'on a pu déduire de nos expériences. Et parfois, nos déductions ne sont pas justes, et parfois elles sont exagérées, parfois elles sont animées par de l'amertume, par de la vengeance, et par des expériences précédentes, et tout. Nos évaluations sont toujours, il est dit, vous tâtonnez, vous êtes là à la recherche. Ce que vous pensez aujourd'hui, c'est pas ce que vous avez pensé hier. Hein, votre manière de voir les choses en tant qu'adolescent ne sont pas pareilles que quand on a 30 ans, c'est pas pareil que quand on a 40 ans, et puis surtout quand on a... je vais parler des plus vieux que moi. Hein, vous avez cru que j'allais vous donner mon âge. Hein. Mais, vous savez, on ne voit pas les choses de la même manière. Et ça... C'est vrai qu'on tâtonne, c'est vrai qu'on voit, et on est à la recherche. Mais il dit, recherchez. Il dit, peu importe la durée de votre recherche, peu importe par où vous êtes passé, il a dit, il est prêt à pardonner parce qu'il considère cela de l'ignorance. Il a dit, mais vous ne saviez pas,
Hein, on ne demande pas à quelqu'un qui ne sait pas de toujours faire bien. Hein, même nous, les humains, aussi durs qu'on peut l'être, on comprend que quand on ne sait pas, ben, c'est difficile de bien faire du premier coup. Et quand ça réussit du premier coup, on dit de la chance. Mais, vous savez, il dit nous avons agi dans l'ignorance. Et il le comprend. Même l'apôtre Paul, lui qui a dit, il dit dans 1 Timothée 1, verset 13, il parle à Tite, et Tite qui justement vient de Lystre, et qui a été élevé parmi les païens, qui avait un père païen, dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et incrédulité. » Pourtant, il était dans le contexte de la religion, il était dans une religion qui avait les 10 commandements, et il avait tout cela. Mais il dit finalement « J'agissais par ignorance. » Et Dieu m'a fait miséricorde. Et Dieu m'a pardonné tout cela. Il dit, mais maintenant que tu m'as rencontré, maintenant que tu m'as vu, hein, eh bien, maintenant, tu deviens responsable. Et le message qu'il adresse à tous les hommes, en tout lieu, c'est de se repentir. Hein. C'est ce message que Dieu donne à tous les hommes, c'est de se repentir. Peu importe la nature de votre erreur, peu importe la direction, la mauvaise direction, tout ça, la question c'est d'arrêter, de mettre un point d'arrêt et puis de partir dans la bonne direction. C'est tout ce qu'il demande. Notre Dieu est un Dieu, mais vraiment miséricordieux, hein, comme Paul a dit, et qui est prêt à pardonner. Il comprend notre difficulté et nous devons, c'est à nous d'abandonner cette vie passée et pour vivre maintenant une qui honore Dieu. Et si Dieu nous dit de chercher en tâtonnant, même s'il faut en tâtonnant, eh bien, c'est bien parce que c'est à notre portée et qu'il veut réellement être trouvé par tous et chacun. Ainsi, il le dit de manière générale à tous, et l'apôtre Paul a adressé cela à tout l'aéropage, il ne savait même pas qui était là, et ni qui l'écoutait, mais il l'a dit, parce que c'était vrai pour tous, il a dit, vous devez chercher. Et en parlant de Jésus, l'apôtre Jean écrira dans son épître, il dira, il est lui-même, parlant de Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien, il a payé le prix pour tout le monde, même s'il savait que tout le monde n'accepterait pas. Mais c'est comme quand Carrefour vous met de la publicité dans la boîte aux lettres et vous donne un bon 10 euros de réduction, eh bien, elle est obligée de le mettre dans toutes les boîtes aux lettres, même si elle sait que tout le monde ne viendra pas réclamer ses 10 euros. Mais pour que ce soit réel, il faut qu'elle le mette dans toutes les boîtes aux lettres. Hein, après, c'est les personnes qui encaissent ou qui n'encaissent pas, ça c'est leur problème. Mais Carrefour doit assurer que tout cela, on ne peut pas dire, si vous venez vous acheter pour 50 euros, vous aurez 10 euros de réduction, mais en fait, vous êtes présélectionné. Hein, et c'est pour quelques-uns, et c'est nous qui avons la liste. Ben, c'est un drôle de publicité, ça. Hein. Et si on n'accepterait pas, on ne tolérerait pas ça chez les hommes, vous savez, Dieu qui est généreux et miséricordieux, non plus, il ne fait pas cela. Et en plus, la preuve que c'est vrai, nous dit, c'est que Jésus est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Et là, et cinquièmement, eh bien, il y a un point qui le rappelle. Il le rappelle, il le dit aux Athéniens. Hein, il leur dit, écoutez, il y a une réalité, c'est qu'il y a un jour de jugement. Et qui nous attend tous. Et je sais, ce mot-là, c'est un mot qui gêne beaucoup. Parce que dès qu'on parle de jugement, après tout d'un coup, vous avez, je ne sais pas, plein de tableaux qui arrivent, des choses terribles que vous avez entendues, tout ça. Écoutez, restons avec la Bible et comprenons ce que ça veut dire.
S'il n'y avait pas un jour de jugement, eh bien, pourquoi Christ est mort sur la croix ? Ce serait aberrant de croire qu'il laisserait mourir Jésus sur la croix, lui innocent, tout ça, le laisser mourir, alors qu'il n'y a rien qui nous menace. C'est que c'est vrai, il le sait, et il nous informe. Maintenant, c'est à nous d'en prendre conscience. Vous savez, beaucoup n'ont pas compris pourquoi Dieu nous a condamnés à un jugement éternel. Et on le prend mal. On dit, ouais, c'est pas gentil. C'est pire que ça. Mais vous savez, s'il n'y a pas de condamnation, parce qu'il y a eu quand même désobéissance. Hein, Adam et Ève ont désobéi. Et donc Dieu avait dit, le jour où vous mangerez de l'arbre, vous mourrez. Donc il y a eu désobéissance. Et Dieu ne peut pas faire grâce à moins de condamner. On fait grâce à des condamnés, on ne fait pas grâce à rien du tout. Hein, s'il y a un parent qui voit l'enfant qui agit mal et puis qui aurait de l'autre côté qui dit rien, il ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, il ne peut rien faire. Mais si je lui dis, écoute, tu as mal fait, mais écoute, je t'explique pourquoi c'est dangereux, pourquoi on ne doit pas le faire, et puis maintenant, voilà, on en a parlé, je te pardonne, on continue. Il peut le faire. Mais s'il a fait semblant de ne rien voir et tourner dans l'autre sens, il ne peut pas régler le problème. Il se prive de la liberté de pouvoir traiter la situation. Et donc, il faut traiter, et Dieu a été obligé. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que quand Dieu n'a pas chassé Adam et Ève du jardin, avant de leur parler du fait qu'il allait leur proposer un sauveur. Dans Genèse chapitre 3, il parle, il dit « Adam, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la femme que tu m'as donnée. » Il parle à Ève, il dit « Ah, c'est le serpent. » Et le serpent, bon, il n'avait rien à dire. Mais la question c'est, mais Dieu dit « J'enverrai quelqu'un qui écrasera la tête du serpent et qui vous sauvera. » Ensuite, il nous dit à la fin du chapitre 3, il nous dit que c'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin, et il mit à l'orient du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est-à-dire Dieu les a chassés, et puis en plus il a mis des chérubins, des anges d'un haut rang, là, pour l'empêcher d'avoir accès à l'arbre de la vie. Et puis toute première réaction, dit « Ah, mais c'est pas gentil. Pourquoi n'est-ce pas ?» Oui, mais justement, c'est là la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, parce qu'il a dit « Si je les laisse aller manger de l'arbre de la vie, eh bien, ils seraient éternellement dans l'état où ils se trouvent. » Et donc, pour ne pas, eh bien, il les a empêchés de s'approcher là. Il dit « D'abord, je règle le problème, et après, ils pourront venir à l'arbre de vie. » Et vous lisez l'Apocalypse, vous retrouvez l'arbre de vie, il est au ciel, il est là, il est toujours pour nous, là. On n'est pas privé pour toujours. Mais il fallait d'abord régler le problème. Et Dieu ne pouvait... Il fallait qu'il les condamne, il fallait qu'il exécute pour être libre de pouvoir, après, leur proposer un moyen de salut. Et donc, ce jugement éternel, il ne faut pas le prendre, ce jugement qui est là, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de pas gentil de la part de Dieu. En fait, ça fait partie de notre salut. Il dit, je vous condamne pour que je puisse vous pardonner. Et pour que je puisse, dans la grâce, et même, je vais prendre sur moi de préparer un moyen par lequel vous pouvez être sauvés gratuitement. Ça ne vous coûtera rien du tout. Ce que nous savons, c'est qu'il prend Jésus-Christ, son Fils, qui meurt sur la croix, lui innocent, qui prend notre place, qui prend sur lui notre culpabilité. Après, il dit, écoutez, maintenant, puisque vous avez été condamné, maintenant je peux vous pardonner. Je peux vous offrir la grâce et vous pouvez venir à moi. Mais il dit, d'abord, donc, cherchez. Je suis un Dieu qui est là. Je suis un Dieu qui est à votre disposition. Je suis un Dieu vivant. hein, pas un Dieu lointain ou quelque chose d'historique. Non, je suis un Dieu qui est actuel, et je suis un Dieu qui peut être trouvé, et en plus, je suis un Dieu qui peut vous extraire de votre situation. Même si vous n'êtes pas conscient, il peut vous sortir de là. Et vous savez, il nous dit dans Jean chapitre 3, hein, on connaît le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, il a la vie éternelle. » Mais après, ça continue. Et au verset 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors, on n'est pas condamné parce qu'on est... La perdition, elle est là parce qu'on a refusé de croire. Hein? Pour nous, le moyen de salut que Dieu nous offre, ce Dieu de la Bible, c'est un Dieu plein de grâce, un Dieu d'amour, c'est toujours de l'amour, même quand il est sévère, mais il est sévère dans l'amour. Et c'est un Dieu qui nous attire, qui nous cherche. Et il dit, et je fais briller le soleil, et je fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants, je suis cette générosité qui est là, et n'attribuez pas ce que je fais à la nature ne pourrait pas le faire si je n'étais pas là pour la mettre en place. Hein, il dit, venez trouver l'auteur de tout cela. Celui qui a eu l'intelligence de mettre ce programme, ce logiciel en place et qui n'a pas besoin d'être mis à jour régulièrement, qui n'a pas d'erreur, qui continue depuis des siècles. Il dit, venez trouver ce Dieu-là qui est généreux. Et comprenez que parce que vous n'êtes pas des animaux, mais vous êtes des êtres humains qui avez une capacité de réfléchir, de projeter, d'être conscient, de ressentir les choses, eh bien, mais vous avez la possibilité de trouver Dieu et d'entrer dans cette relation. Et comme dans le moment de présidence, là, notre frère, eh bien, il nous a parlé de Jésus. Le nom Jésus, ce n'est pas juste un nom, ça représente tout un programme. Et surtout une relation possible avec Dieu. Et l'apôtre Paul termine par dire que à ceux et celles qui ont cru, que quelles que soient les épreuves encourues, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé à agir, peu importe dans quel état j'étais quand je suis venu vers Dieu, et d'où je l'ai appelé. Hein, parce qu'il ne nous demande pas d'améliorer notre vie, ni de se transformer, ni de se purifier. Il dit, viens tel que tu es. Viens à moi. Je te reçois, je te prends, et c'est moi. Je te prends en charge, je m'occupe de tout. C'est un peu comme le fils prodigue hein, qui est rentré à la maison. Eh bien, les vêtements en lambeaux, il venait de passer du temps avec les cochons, et les cochons, pendant une famine, donc si vous, déjà vous croyez qu'ils se bousculent normalement, quand il y a de l'abondance, vous savez comment il se bousculerait et tout ça quand ça manque. Et lui, il est au milieu. Et alors, il vient. Et vous savez ce que le père fait ? Première chose, il l'embrasse. Il court vers lui d'abord, et puis il l'embrasse. Il le protège. Et comme John MacArthur, j'avais apprécié une prédication sur le fils prodigue, et là je vous donne, c'est en plus, hein, c'est pas dans mes notes, c'est gratuit là. Il a dit... En fait, ce fils était tellement mal comporté que c'était normal que la communauté, le village, eh bien, le lapide parce qu'il avait mal agi vis-à-vis de son père. Et c'était comme ça. Et un enfant qui était rebelle et qui avait agi de cette manière avec son père, eh bien, il serait lapidé, battu, chassé.
Et donc, il dit, le Père a couru vers lui, en fait, pour le protéger de la communauté. Il a mis son corps là, pour le protéger. N'est-ce pas l'image de Jésus-Christ qui a pris sur lui pour que nous ne recevions pas ce que nous devions recevoir. Et ensuite, le Père, l'enfant, il dit, Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je te demande pardon, je ne suis pas digne d'être ton fils, et tout ça, c'est très bien, hein, c'était la bonne attitude. Et le Père, ce n'est pas qu'il n'a pas tenu compte, mais le Père, il a dit, très bien, tout pardonné, en fait, et dorénavant, tout est sur moi. Et il donne l'ordre, il dit, donne-lui des souliers pour qu'il n'ait pas l'air d'être un esclave dans la maison, donne-lui une bague pour qu'il montre qu'il est de la maison, un fils, donne-lui un vêtement nouveau pour montrer qu'il est restauré avec le Père, et on va faire la fête et on va se réjouir. Et c'est l'image. Et c'est ce que Dieu veut. Et peu importe si on est digne, peu importe, ce fils prodigue, il n'était digne de rien. Et il le savait, il a dit, tu me ferais grâce si tu le mettais au rang des derniers serviteur, journalier de la maison. Au moins, j'aurai quelque chose à manger. Et le Père a fait de lui son fils. Et c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu de la Bible. Et c'est celui-là que, même qu'on soit d'origine chrétienne ou autre chose, peu importe, parce que le Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, il est le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de la race humaine. Il est l'origine de cette race humaine et il veut qu'on se tourne vers lui. Et c'est important pour nous, non pas de se l'imaginer, mais de le rencontrer tel qu'il est. Et je sais que vous ne serez pas déçus. Personnellement, ça fait des années que je marche avec cette pensée-là et je me sens épanoui. Je ne me sens pas privé de quoi que ce soit, ni dans ce monde, et surtout pas pour le monde à venir, hein. Et donc, connaître ce Dieu. Et Paul dit, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu vivant, c'est Dieu qui vaut la peine d'être cherché et trouvé, et parce qu'il a payé le prix, son fils est mort, et il est ressuscité. Et nous pouvons l'offrir, et c'est une bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide, prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que tu n'es pas le Dieu qu'auraient inventé les hommes, parce que tu aurais trop ressemblé aux hommes, et tu aurais eu un comportement semblable à ceux des hommes, et tu aurais été dur comme les hommes. Mais heureusement, ce n'est pas toi qui nous a créés, c'est toi qui nous a créés. Et en nous créant, tu nous as donner cette capacité de pouvoir venir à toi, de te rechercher, d'être conscient de ta présence, de vouloir rétablir la communion, de te retrouver comme un enfant qui a été adopté, qui ne connaît plus ses parents et qui les retrouve. Seigneur, que nous puissions te retrouver et reprendre cette relation avec toi. Seigneur, merci parce que la Bible nous présente un Dieu plein de miséricorde, au saint, qui ne tolère pas les péchés, les défauts, mais qui a, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Seigneur, merci pour cette œuvre, merci pour cette présentation qui est donnée à ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, tu connais chacun ici ce matin, tu connais dans quelle situation. Et même si nous avons grandi avec les connaissances de la parole, et Seigneur, nous avons besoin de te connaître. Et comme il dit, te connaître, c'est la vie éternelle. Père, à toi toute la gloire et l'honneur. Et puis Seigneur, je te prie de répondre à toute aspiration qu'il y aurait dans un cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen.